Nous sommes mardi, il est 21h et c'est l'heure du Dojo Bar.
Bar.
Bonsoir tout le monde, bonsoir Méduse.
Salut Mortal.
Et bonsoir à notre pléthore absolument hallucinante d'invités, puisque nous avons Antix, l'homme réverso.
Bonsoir.
Qui a presque rempli son défi de faire tous les dojo bars, et c'est tout.
Ouais. Ça a raté depuis longtemps quand même celui-là.
Je crois que la France entière est partie suicider suite au vote de la loi Renseignement.
C'est possible, ouais. D'ailleurs vous êtes sur écoute. Mardi, il est 21h, vous écoutez le dojo bar et vous êtes sur écoute. Big Brother vous écoute.
On a un gouvernement spécial dojo bar dans le Mumble, hein. Les écoute.
Voilà. D'ailleurs, j'en profite pour passer un petit message personnel à Monsieur Cazeneuve. Hein, si tu m'écoutes, va te faire foutre. C'est gratuit, c'est pour moi. Donc, dans notre lutte acharnée contre plein de trucs, on a plein de gens qui viennent pas, en fait, aujourd'hui. Je tiens à saluer Caduceus, qui nous a fait un petit coucou, qui est revenu, Caduceus, qui vient de Death in Paris. Nous a fait un tout petit coucou juste avant l'émission, c'était très sympa. Et qui nous écoute en ce moment parce qu'il a très hâte qu'on parle du programme. Il a très hâte, ça se dit pas ça. Il est absolument impatient que nous parlions du programme d'aujourd'hui. Donc on va commencer par parler de Mario Kart 8, hein, le DLC numéro 2, tous les circuits, tous les personnages et le putain de mode 200cc. Voilà, qu'est-ce qu'il y a maintenant ?
You got boost power !
Voilà, you got boost power partout. Et le deuxième sujet concernera Kickstarter.
Démarrage de pied, l'eau.
Démarrage de pied. Coup de pied au cul, comme on l'appelle, pas du tout. Donneur de coup de pied au cul. En fait, c'est Reggie Fils-Aimé qui est derrière le. C'est Kickstarter, en fait.
C'est lui qui prend les 8%.
C'est lui qui prend les 8%. On se demandera si c'est une grosse arnaque ou pas. Et c'est vrai qu'il y a un événement récent qui nous fait dire que peut-être on s'est tous bien fait entuber. C'est pas le premier d'ailleurs, c'est une longue série d'hécatombes concernant Kickstarter.
Ouais.
Et donc, on va commencer tout de suite dans notre traditionnel tour de table de l'actu, et c'est Méduse qui va commencer, puisqu'il y a une nouvelle très importante qui nous vient de Buggysoft.
Oui, alors, grosse nouvelle sur PS4 et PC, il y a Far Cry 4 Complete Edition qui est annoncée, ce qui signifie que Ubisoft nous confirme qu'ils vendent bien des jeux en kit. Il faut désormais attendre la Complete Edition pour acheter son jeu complet.
Non, je
on n'est pas prêt
de
voir ça,
jeu,
parce que c'est
jeu fini,
Unity, visiblement. Voilà, il y a le jeu fini. Il y avait avant, il y avait les démos, puis les jeux finis. Maintenant, il n'y a plus les démos. Enfin, s'il y a les démos, mais elles sont vendues. Et après, il y a les complètes éditions pour les jeux finis. Nouveau mode de commercialisation, c'est merveilleux, c'est 2015.
Ça permet d'allonger les ventes, hein.
Mais je pense surtout
c'est nouveau les mecs, on a fait un nouveau jeu.
Voilà, non, mais ce qui est très intéressant surtout, c'est qu'on a officiellement le barème officiel, hein, d'Ubisoft. Donc, chez Ubisoft, la release, c'est la bêta. Hein, voire même l'alpha, le premier patch ça nous donne la bêta, le deuxième patch ça nous donne la release candidate, et
ouais,
à partir de la complete
ça.
Edition c'est la version release, voilà, c'est la version qui doit sortir.
La vraie,
la seule. Le pire c'est qu'ils vont sûrement faire des patchs encore derrière, c'est ça qui me...
Bon, patch la complete edition, qui aura ses propres bugs.
Qui aura ses... Ouais,
les patchs
qui rajoutent des bugs, c'est quand même assez sympa, moi.
Ça, ils ont déjà fait ça. En fait, je crois que la complete edition, après, ils touchent plus à rien, tu vois. Ils font plus rien.
Ouais, c'est la version finale.
C'est la vraie.
Donc, si t'étais chez Nintendo, ça aurait été le jeu fini. Voilà.
Ouais.
C'est à peu près ça qu'il faut compter.
C'est ça.
Si t'avais été chez Platinum Games, ça aurait été à peine le prototype, à mon avis.
Ah, c'est bien possible, parce qu'en termes de finition, c'est vrai que là, les mecs, ils ont quand même une sacrée longueur d'avance sur tout le monde.
Balèzes.
Ils sont super balèzes. Antix, ça tue un sujet d'actualité, c'est les 10 ans de ton
dépucelage. Ah, désolé, j'ai pas d'anniversaire. Donc Nintendo a annoncé récemment qu'ils allaient refaire des amiibo un peu rares. Marf et le villageois. Et de ce qu'ils ont montré au niveau des photos, c'est qu'ils ont refait un peu certaines figurines qui seront un peu proches de l'artwork d'origine.
D'accord, donc on risque d'avoir des collectionneurs de la version 1 et de la version 2 des amiibo.
Bah, ça va être un peu ça.
La first edition vaudra plus cher.
Bah, en même temps, c'est une bonne chose que les mecs passent enfin à essayer de juguler cette pénurie, parce que c'est vrai que ça venait un petit peu n'importe quoi.
Et puisque je parle de jouets, j'ai vu que Monolith avait annoncé qu'avec un fabricant de jeux japonais, ils allaient sortir des maquettes des robots Xenoblade Chronicle X.
Ah, c'est marrant, c'est une chouette idée. Enfin, pour les fans, évidemment, mais c'est marrant, quoi.
Ouais, c'est pas mal ça, tiens. Mais c'est assez fréquent ce genre de monolithe. La plupart des studios japonais sont plutôt habitués à sortir les versions figurines quand ils espèrent que ça va se vendre un petit peu.
Je crois que Xenoblade a quasiment pas une figurine, quoi. C'est...
En même temps, Xenoblade est resté un jeu relativement confidentiel, ou c'est une idée? C'est peut-être une idée.
C'est populaire, je dirais. C'est plus un succès d'estime que commercial, mais. Je pense que c'était ça a bien marché pour qu'ils aient fait une aussi grosse suite sur Wii U, quoi.
Oui, ça après, mais après il y a peut-être Nintendo qui a rajouté des brousoufs derrière aussi, donc.
Oui, bah ils ont vu en tout cas.
Une galère de jeu.
Bah le jeu a une bonne image, donc ils en profitent aussi un peu, mais.
Oui, voilà. Ça paraît un petit peu évident. Moi j'ai le dernier petit sujet d'actualité. Connaissez-vous Tom and Jerry The Chess Is On sur NES?
Non.
Eh bien ce jeu existe. C'est un jeu Tom et Jerry sur NES, et il se trouve que le jeu était en développement sur Super NES, et ce développement a été annulé, c'est-à-dire qu'il y a eu quelques previews dans des magazines ou des choses comme ça, ce développement a été annulé, et on pensait que le prototype, enfin en tout cas un des prototypes de développement, était perdu depuis très longtemps, et il a été retrouvé. Ça c'est la nouvelle un peu rigolote. Ça me fait toujours marrer quand on arrive à retrouver des choses qui sont perdues. Il était perdu depuis 1993, c'est-à-dire que depuis 1993, on n'avait pas de nouvelles de ce jeu-là, et finalement, on a redécouvert ce prototype-là, dans des circonstances un petit peu particulières, parce qu'en gros, il a été retrouvé, c'est genre dans un grenier, enfin, c'était un truc assez obscur, et c'était des chipsets complètement séparés, en fait, de la carte d'origine qui ont été retrouvés, et les mecs ont été rassemblés les chipsets dans le bon ordre. D'avoir le truc, c'est assez ouf ce que les mecs ont fait. C'est vraiment un vrai travail de reconstitution. Donc ils ont récupéré des chipsets qui étaient dans un état lamentable. Il y en a certains qui ont dû récupérer les numéros de série des trucs pour voir ce que c'était, pour arriver à les reclaquer et tout ça. Et donc ils ont reconstitué un des prototypes de développement, le prototype NTSC de développement de ce jeu. Alors le jeu en lui-même a rien d'exceptionnel, mais c'est le travail de restauration autour que je trouve intéressant. C'est vrai que ça fait quelques années qu'on voit de temps en temps revenir à la surface des prototypes de jeux qui sont jamais sortis. La N64 est une grande habituée de ce genre de choses-là, je sais pas pourquoi. C'est vrai que c'est très souvent qu'on voit des cartouches de développement, c'est des cartouches qui sont très 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 en hauteur, très en hauteur.
Oui.
Et qui arrivent à refaire surface sur eBay et qui sont vendues parfois à des prix assez énormes. Et on a des collectifs comme Retro Collect, comme Unseen 64. Qui se cotisent, qui montent des petites opérations éclairs comme ça pour se cotiser, réunir 1500 ou 2000$ pour récupérer le prototype, le ripper et ainsi de suite.
C'est peut-être parce que la 64 c'était un peu plus le début de la vraie 3D, quoi.
Alors il y a peut-être, ouais, là, il y a
des difficultés de ça, des
tout à fait. Côté, ou... Alors il y a peut-être des projets aussi qui ont été annulés simplement parce que, la 64 c'est quand même pas exceptionnellement bien vendu et. Enfin, globalement, si tu développais ton jeu sur PlayStation, même si tu mettais juste un écran titre, t'avais des chances de le vendre.
C'est voilà. À peu près ça.
Ah, c'est quand même bien piraté la PlayStation.
Ouais, non, mais en plus, mais c'est pour ça qu'elle a marché aussi, hein. faut être honnête. Hein. C'est parce qu'elle a été piratable assez facilement qu'elle a fonctionné.
Oui.
Il n'y a pas que ça, mais je veux dire, ça fait partie du phénomène. Mais je pense que, ouais, voilà, enfin, sur PlayStation, il y a d'ailleurs des jeux dont seul l'écran titre est à peu près potable. Hein. C'est ce qui est bien.
Ils ont moins travaillé quelque chose.
Voilà, comme dirait notre camarade Cyrard s'il était là, hein, beaucoup d'efforts ont été faits sur la présentation. Attention, j'ai pas dit qu'elle était belle, j'ai dit qu'il y avait eu beaucoup d'efforts.
Voilà. Ça mérite au moins 3 sur 10 selon les critères de notation du dojo.
C'est un peu ça, ouais. Je sais plus pour quel jeu il avait dit ça, mais c'était assez marrant.
Et quand même, juste parce que, avant que j'oublie,
alors
vendredi,
vas-y.
Vendredi à 16h, est-ce qu'il y a vendredi à 16h?
Splatoon!
C'était, il fallait le rappeler.
Alors,
quand même.
Je rappelle que le contenu a peut-être fuité, on n'est pas sûr, ça se confirmera vendredi à 16h, quoi, du coup. Mais on aurait l'annonce d'un premier DLC avec des stages supplémentaires, on aurait l'annonce de quelques costumes, de machin, de trucs. Le mode dojo,
attends,
ça ne
s'invente
pas.
C'est pas le jeudi plutôt ?
C'est pas le jeudi. Ah si, c'est jeudi 16h, je suis venu.
C'est jeudi ?
Oh,
c'est
sûr,
c'est jeudi.
C'est le 7 mai. C'est le 7 mai. Le 7 mai, c'est le jeudi.
Ah ouais. Non, c'est pas le 8.
Non, c'est pas le 8.
Ah merde.
À moins qu'il y ait un décalage en Belgique dont on n'est pas au courant, mais.
Ouais, des fois ça arrive. Ah oui, c'est le 7. Putain, c'est jeudi, c'est pas vendredi, c'est jeudi. Wouh.
C'est pas grave,
c'est
on
jeudi
couvrira
à
quand
16h.
même.
Là, je pourrais pas le regarder en direct, quoi. Je devrais le regarder à 18h30. Ah, là, pff,
je devrais le regarder à 21h,
quoi.
Tu vas jamais survivre.
Je vais jamais tenir, c'est clair.
C'est ça.
Tu vas être tellement tenté. Bref, effectivement, il y a le spécial Splatoon. Je vous invite à regarder, le contenu aurait fuité, donc on a traduit ce qui aurait fuité, on n'est pas sûr hein, évidemment, mais c'est vrai qu'il y en a quelques-unes qui paraissent un peu crédibles dans le lot.
Ah, les DLC, bref, ça me paraît normal. Hein.
Les DLC, ça me paraît assez logique, c'est le genre s'y prête.
Il y a un moment, ils avaient quand même dit que pour une nouvelle licence, qu'ils voulaient juste faire un jeu sans DLC, machin, truc, bam, et le balancer, donc...
Bah, je pense que si je marche, on aura des DLC comme Mario Kart, genre 3 ou 4 fois après, tu vois, pour faire vivre un peu le jeu.
Ouais, puis c'est du multi, mais ce sera peut-être des DLC gratos, du coup, tu vois.
C'est possible. Réponse dans 2 jours, le suspense est à son comble. Je rappelle que ça fait quand même des mois qu'on mouille nos culottes sur Splatoon. Et franchement, je crève tellement d'envie de vous péter le cul à ce jeu.
Ah, mais il faut longtemps attendre.
Voilà, je crève d'envie de vous péter le cul de manière générale, mais à ce jeu en particulier. Bref, nous allons faire une première petite pause musicale, nous allons écouter le thème de Big Blue du dernier DLC de Mario Kart 8.
Donc Big Blue avec l'Epic Sax Guy à un moment.
Avec l'Epic Sax Guy, effectivement.
Il y a un saxophone démoniaque.
Par l'exceptionnel Mario Kart 8 Orchestra qui a encore fait un boulot de taré sur ce DLC, mais ça on en parle dans un petit peu plus de 2 minutes. À tout de suite. Et nous voilà de retour. Pour parler de Mario Kart. C'est quoi ce bordel?
Le bordel.
Ok, il y a un truc très bizarre. Non, c'est pas grave. C'est le bordel en direct. C'est les joueurs du direct.
C'est le jeu bar, c'est le direct.
C'est la même merde. C'est pas grave. Pourquoi est-ce que... Non, mais il est complètement fumé ce truc. Non, c'est pas grave. J'ai tout pété le dojo bar.
Ça commence bien.
J'ai tout cassé les fesses du dojo bar. Alors, on va parler d'abord des sujets pas intéressants. Donc, nouveau personnage, tout le monde s'en fout.
Ouais.
Ouais.
Un nouveau personnage du DLC 2, on est quand même d'accord. Enfin, je sais pas s'il y a grand chose à dire. L'espèce de clébard d'Animal Crossing, là, je sais pas comment il s'appelle.
Marie. Moi non plus, on s'en bat les couilles.
Moi en général, je l'appelle Michel.
Bah, c'est pas mal parce que c'est un peu. Elle a un bon nom de secrétaire du coup.
Je l'aurais bien appelé Bobby.
C'est Marie qu'elle s'appelle.
On s'en fout. La chienne.
La chienne.
C'est pouf, comme tu y vas. Je ne te permets pas de dire ça de cette dame qui est peut-être.
Non, les persos,
très...
on s'en fout.
Les persos s'en foutent un peu.
Bon, les persos, on s'en fout. Les nouveaux véhicules.
Attends, quand même, les personnages d'Animal Crossing, sens du détail, ils font un joli petit bruit avec des petites notes quand on fait le super saut au bord de la
rue. Le villageois n'a pas de bruit.
Le villageois
ne parle pas.
Il fait pas des proutes.
Il y a une espèce de note de musique de couleur qui apparaît, c'est tout choupignou.
Mais de manière générale, ils sont toujours tout choupignou. Ouais. Bowser Skelet, l'impression que autant sur le DLC 1, le fait qu'il y ait Link, ça a un petit peu relevé le niveau. Enfin, tout le monde a joué Link pendant 3 mois, on avait que des Link online, enfin c'était un vrai bordel. Mais là, j'ai l'impression que au niveau des personnages, c'était quand même loin d'être la folie.
Ouais, en même temps, les personnages, on s'en fout quoi.
Dans Mario Kart, ça en branle un peu. Moi, je joue Mascas, c'est bon.
Ah ouais, toi, tu t'es carrément un PNJ, quoi.
Ouais, c'est ça. Moi, je prends le PNJ. Mais maintenant, je l'ai en 9 couleurs différentes.
Comme Yoshi, tu peux jouer Yoshi vert. Ouais, attendez. Non, c'est la bonne couleur de Yoshi.
C'est la couleur
tu, peux jouer, tu peux jouer Yoshi rose.
Et ouais.
Voilà, c'est ça, Yoshi rose. Tu peux pas encore jouer Yoshi en laine, mais ça va peut-être pas tarder.
Avec la mimo de Yoshi Reward,
ce
peut-être.
Ce serait super classe. Surtout
avec
ça,
un carton laine.
Méga classe. Avec un carton laine, ce serait juste énorme. Donc les nouveaux véhicules, je sais même pas s'il y en a.
Si, il y a un scooter d'Animal Crossing, tu as un truc scarabée. Il y a une espèce de véhicule scarabée qui, dont les ailes de l'escarabée s'ouvrent à l'arrière quand tu es en antigravité.
Waouh!
Et tu as une espèce de quad pour. T'as une espèce de voiture de sport et un quad pour Bowser Skelet. Et des roues Animal Crossing.
Voilà, donc on s'en fout.
On s'en fout.
Voilà, et donc on va passer au truc intéressant, c'est-à-dire les 8 nouveaux circuits.
On s'en fout aussi, ça, non?
Pour l'instant, un peu moins.
Non, on s'en fout pas.
Beaucoup moins.
Ah, beaucoup moins. Très bien.
Sauf après, il y a un truc dont on se fout pas du tout, mais on verra ça après. Sur les nouveaux circuits, c'est regroupé comme d'habitude en 2 tournois. Donc il y a le retour du parc Baby. Qui est cette fois-ci intégralement en antigravité.
Et qui est un peu à chier quand même comme circuit. Hein.
Moi je suis pas d'accord. Alors, oui, on a enfin un circuit pour faire du battle.
Sauf qu'il n'est pas dans le mode battle.
Voilà. Mais voilà, on en aurait eu un.
J'ai essayé parce que je me suis dit aussi.
Merde enfin, moi j'ai pas essayé, battle. Je me suis dit qu'il y était en fait.
Non. Mais,
merde. Je pensais qu'il y était, hein, ça semble.
Au-delà du fait qu'il est super avec plein de détails, des attractions, que ça bouge dans tous les sens et que c'est hyper rythmé, je trouve qu'il y a un gros problème dans ce circuit-là, mais qui est un truc cool quand même. Le gros problème, c'est que. Cette tour, c'est trop peu, je trouve, pour le faire, et ça devrait être un truc carrément, tu vois, tant qu'à faire sur 20 tours, quoi, tu vois.
Oh, ce serait long, 20 tours, hein, 20 tours de boucle,
ouais, mais c'est rigolo, quoi, tu vois. Genre, le circuit Excite Bike, il est super long, mais tu fais 3 tours, mais c'est rigolo. Celui-là, c'est juste trop court, je trouve. Et alors, par contre, le truc marrant, c'est que quand t'es en 200 cm3, tu peux carrément être tout le temps en dérapage, en fait, tu vois. En dérapage,
oui, ça, c'est
tellement ça. C'est très rigolo.
Mais enfin, Park Baby, moi, je le trouve assez énorme comme circuit parce que c'est tellement le merdier.
Ouais.
C'est le merdier permanent et on est effectivement tout le temps en dérapage, tout le temps en machin, et tu te prends des carapaces du 12e alors que t'es premier. Enfin, ouais, c'est un vrai bordel.
Juste quand t'es premier, c'est juste pas évident du tout de savoir si t'as un tour d'avance sur le second ou s'il est juste derrière toi.
Ouais, non, moi, je trouve pas. Enfin, moi, Park Baby, je l'aime bien et c'est vrai que Park Baby en. Voilà, je le trouve rigolo. Après, c'est vrai qu'effectivement, ça reste un circuit extrêmement basique.
Ouais, complètement.
Ça, pour le coup, tu dois faire plus basique à part une ligne droite. Hein.
Effectivement, mais ligne droite, ils le feront peut-être.
Bah, le circuit ligne droite. Le circuit Excite Bike, par 2 virages, c'est la
ouais, ligne le circuit Excite Bike, c'est nul rigolo. Aussi. Hein. Alors après, il y a plein de boss et de choses comme ça.
C'est rigolo.
Nous avons ensuite le pays fromage.
C'est pas mal comme circuit, celui-là.
De la version Game Boy Advance, qu'on ne reconnaît absolument pas. Le lifting des circuits GBA, il est au moins aussi impressionnant que le lifting des circuits Super NES, même voire plus, parce qu'il est vraiment.
Ouais,
ils sont méconnaissables, voilà. Les circuits.
Bah, pour le coup, le seul circuit GBA qu'il y avait avant, le seul circuit GBA Super NES, c'était quoi? C'était Plaine de Nets et Mario Circuit, non?
Ouais, voilà.
Ouais, en plus, c'est des circuits assez simples, là. Pour le coup, il y a un vrai boulot au niveau du décor. C'est presque un nouveau circuit, hein.
Quand
je les ai vus, ils m'auraient pas dit GBA, j'aurais dit c'est un nouveau, quoi.
Ouais, la Plaine de Neige, c'était Super NES, non?
Oui, c'est ouais, ça, la Plaine de Neige, c'était Super NES, et il y avait un Mario Circuit de la version GBA.
GBA,
si je dis pas
ouais,
plus.
Ouais, c'est énorme.
C'est le terrain où tu vois qu'ils sont de l'époque Super Nintendo GBA, parce que les murs au milieu, ils sont en cube de couleur.
Ouais.
C'est comme ça que tu reconnais.
Mais même sur le circuit fromage, j'ai eu un petit effort, parce que c'est là que tu vois, il y a des vrais raccourcis. C'est que les nouveaux circuits, il y a souvent plusieurs chemins. Les circuits de Mario Kart 8, de manière générale, t'as souvent plusieurs chemins pour atteindre, enfin plusieurs chemins,
oui.
Mais il y en a pas forcément un qui est plus rapide que l'autre. Il y en a un où il va y avoir des turbos, mais il va être plus long. Il y en a un où il va pas y avoir de turbos, mais il va être au plus court. Voilà, l'objectif, c'est plutôt de séparer le peloton de 12, j'ai l'impression, plutôt que de faire des vrais raccourcis. Avec les versions Super NES et GBA, t'as des vrais raccourcis, t'as des vrais shortcuts que tu peux prendre qu'avec des turbos, qu'avec des machins, qu'avec des trucs.
Ouais, là ils ont plusieurs routes et en plus de ça, il y a des raccourcis derrière.
Tout à fait.
Sont assez bien, ouais. Assez bien placés en plus de ce pays
mais
fromage.
Du coup, circuit fromage, j'ai trouvé c'est sympa, mais sans plus, quoi, il m'a pas tellement.
En 200cc, il est assez balèze vu qu'il y a pas mal de virages.
Ouais.
Mais
c'est très serré.
Mais moi, je trouve que c'est un bon circuit, c'est pas celui qui m'a le plus marqué, mais du DLC. Mais moi, j'ai bien aimé.
Enfin, oui, c'est un très bon circuit, c'est effectivement, à mon avis, pas le plus marquant, mais ça reste une très bonne réédition d'un circuit Game Boy Advance avec un look. un look assez énorme. Et puis c'est vrai que ça fait plaisir, je trouve, comme circuit. Enfin, je sais pas, je trouve que l'ambiance est sympa, la musique est sympa, donc voilà, c'est un bon circuit. Nous avons ensuite Passage Feuillage, que moi j'aime beaucoup. Passage Feuillage,
oui,
je trouve super
très, très
joli.
Bonne musique,
très reposant. Ouais.
Et ouais,
pourquoi il va assez vite, il est assez speed, je trouve, ce circuit. Ouais. Entre le moment où tu dois choisir les deux chemins au début, et celui de droite va en fait plus vite que, enfin, vraiment plus vite que celui de gauche pour le coup. Et le passage dans les rapides, où là tu vas vraiment plus vite, il était assez sympa ce circuit, niveau vitesse.
Ouais, voilà, je le trouve très sympa. En plus, il est en grande partie en antigravité, c'est-à-dire que c'est une espèce de grande boucle, mais qui est verticale ou quasiment.
Tu commences à grimper l'arbre, en fait.
Ouais, voilà, tu commences.
La verticale,
voilà, je trouve qu'au niveau ambiance, il est super sympa. Il y a plein, en plus, de jeux d'ombre et de lumière avec les feuillages et tout. Je le trouve vraiment, vraiment bien foutu. Bref, donc c'est pas mon circuit préféré de ce DLC, mais il est vrai que je m'y attendais pas et ça fait un circuit original. C'est assez équilibré finalement quand vous regardez, c'est-à-dire qu'il y a 4 circuits rétro, donc effectivement il y a 4 circuits qui sont issus. Voilà, il y a 4 circuits nouveaux, et dans les 4 circuits nouveaux, il y en a 2 qui sont pas du tout issus d'un univers quelconque de Nintendo, qui sont des créations originales, et donc il y a Passage Feuillage et Métro Turbo, dont on parlera un petit peu après. Juste après, dans la même coupe qui doit être la coupe Animal ou la coupe Crossing, enfin je sais plus comment ils ont appelé
la
ça.
Coupe Clochette, je crois.
Coupe Clochette, coupe je sais pas quoi. Donc nous avons le circuit Animal Crossing.
Bon, lui,
quelle originalité d'être différent à chaque fois que tu le fais, puisqu'il change de saison.
Alors autant je trouve pas spécialement foufou au niveau du tracé, autant le fait que ça change de saison, déjà c'est super cool.
Ça change de musique aussi.
Ouais, alors
t'as quatre musiques quand même différentes pour le circuit, c'est quand même assez énorme.
Le petit détail qui tue, c'est que quand t'es printemps, été, c'est la journée, automne, c'est le soir, et l'hiver, c'est un peu plus la nuit. Alors le truc qui est très sympa, c'est que quand t'es en été, en automne, pas certain pour les autres saisons, t'as des trucs parfois qui tombent des arbres, ça ressemble à des fruits d'Animal Crossing, quoi, mais quand tu passes dessus, c'est un turbo, en fait.
C'est toutes les saisons, je crois. Hein. Ah, peut-être pas en hiver ou en automne, mais...
Je trouve ça assez sympa d'avoir inclus des éléments d'Animal Crossing en tant qu'item.
Les pièces d'Animal Crossing, elles font le bruit font pas le même bruit de pièces.
Ouais, c'est un bruit de merde.
Et ça fait un bruit de clochette.
Et comme pour F-Zero, la musique après que t'aies gagné la course, c'est une musique d'Animal Crossing et pas la musique de Mario Kart habituelle.
Voilà, donc c'est vrai que c'est un petit peu comme le circuit F-Zero du précédent DLC Hyrule. C'est quand même super sympa.
Mais pour le coup, je trouve que le circuit Animal Crossing, niveau fan service, je trouve le circuit Animal Crossing plus réussi que le circuit Hyrule, qui faisait pas très Zelda pour moi. Enfin, c'était un peu un château un peu random, et là pour le coup, entre les petits animaux d'Animal Crossing qui sont sur les côtés, les clochettes, et puis même le.
Oui, t'as Tom Nook, enfin t'as tracé, plein de clins d'œil.
C'était un peu joué au dernier Animal Crossing, parce que je crois que c'est surtout sur celui-là qui se base. Tu passes du plein milieu du village à la plage assez rapidement, donc. Je trouve qu'ils l'ont mieux réussi, en fait, globalement, le circuit Animal Crossing que circuit Hyrule par rapport au fanservice.
Ouais, je sais pas, je trouve que c'est à peu près kiff-kiff. Je trouve qu'ils en ont... Ça aurait pu être beaucoup mieux, mais que c'est déjà pas mal.
Alors, ensuite, dans la coupe, l'autre, donc pas la coupe clochette, l'autre.
Alors, en fait, la coupe crossing, c'est celle dont on vient de parler. Donc, c'est la coupe clochette.
Donc, ça, c'est la coupe clochette. Je suis désolé. Alors, les noms des coupes... Nous avons donc coupe à police... qui est un circuit 3DS, qui était un des très bons circuits de la version 3DS, qui était vraiment super agréable à jouer, et qui là est pareil métamorphosé, enfin par rapport à la version 3DS qui est pourtant pas moche, le lifting est assez impressionnant, quoi.
Ouais, j'ai pas trouvé la différence, mais moi j'étais content de revoir ce circuit qui est quand même assez technique, en fait. C'est vraiment un bon circuit de coup pour la course, assez agréable.
J'avais pas du tout testé la version 3DS de Mario Kart.
Oh la lopette, Mario Kart 7, et ouais.
Mais par contre, je trouve le circuit juste super bien fait. Il y a des très jolis effets de reflets, de pluie, machin truc. Les shaders sont très propres. Et effectivement, il est bien technique à jouer. Et l'ordinateur.
Il est très 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 sympa à jouer.
Il y a beaucoup de traces à partir du mode 156 et dessus, je trouve.
Voilà, mais il est vraiment. Coupa Police, je l'ai trouvé super impressionnant. Même par rapport à la version 3DS, je le trouve très impressionnant, et en soi, ça reste un très bon tracé, un tracé effectivement très très technique, beaucoup de virages en épingle, enfin voilà, ça fait vraiment du tracé beaucoup plus technique que ce qu'on avait. Finalement, la coupe crossing, elle est assez, enfin, les tracés sont quand même assez simples. J'ai l'impression qu'ils ont mis le paquet plutôt sur la coupe clochette.
Ouais, les circuits, c'est plus la coupe clochette qu'un circuit difficile. Hein.
Voilà. D'ailleurs, à propos de voilà, mon circuit préféré de ce DLC 2, la route Ruban, qui est un circuit qui est issu de la version Game Boy Advance, que là, effectivement, on ne reconnaît absolument pas.
Ouais, il nous envoie du rêve. Hein.
Complètement awesome, quoi.
C'est vraiment des plus réussis niveau univers, je trouve.
C'est le mode Micro Machine, quoi.
C'est le mode Micro Machine, alors ça se passe dans une chambre. Enfin, on pense que c'est une chambre, il y a des jouets partout. Et c'est donc une course qui se déroule sur une espèce de ruban qui passe au milieu des jouets, qui passe au milieu de alors, il n'y a pas de Lego parce qu'on n'a pas le droit d'utiliser la marque Lego, mais enfin voilà, il y a des briques à empiler, il y a des petits automates, il y a des Yoshi en peluche.
Jouets en bois, machin.
T'as des boîtes de maquettes des véhicules du jeu aussi, ça je trouvais ça génial.
Voilà, il y a un petit panneau avec. Il y a un panneau dans le fond, enfin une boîte de Mario Kart, mais genre comme un circuit de train qui est quelque part planqué dans le décor. Il est juste absolument magnifique ce circuit.
Ouais, en plus sur l'harmonie des couleurs, je trouve ils ont fait vraiment, que ce soit pour les rubans, le reste, vraiment, ça fait c'est vraiment, enfin c'est super super gay comme truc et les textures de laine, machin, de tissu, tout ça qu'il y a le long du parcours, c'est de la balle quoi. Avec deux, trois petits raccourcis en plus rajoutés dedans, c'est vrai que plus le truc qui sort quand on roule dessus.
Et ça, c'est cool le mouvement du.
C'est un des meilleurs circuits du jeu, quoi.
Je pense qu'effectivement, ça fait partie des. Enfin, moi, c'est le circuit sur lequel moi, quand il y a la présentation du circuit avant de commencer à courir, c'est le seul que je laisse dérouler parce que j'essaye de voir absolument tous les détails. Ouais. Et c'est vrai que c'est impressionnant la quantité de trucs. Que c'est capable de. Enfin voilà, il est, je trouve, en termes de niveau de détail, je peux le trouver hallucinant. Vraiment hallucinant. Il y a des milliers de détails absolument partout. Et en plus, le tracé est super agréable. Il n'est pas forcément très très difficile, moins difficile que Koopapolis, je pense.
Mais. Ouais, j'arrive toujours à me vautrer quand même en essayant de prendre les rampes, tu vois, les deux rampes qui suivent.
Ouais, les raccourcis.
Ouais, je me vautre toujours dedans. Mais j'y vais quand même.
Bah pour le coup, il est plus niveau tracé, il est plus au niveau de la difficulté de la coupe crossing que de la coupe clochette. Les fromages est plus dur par exemple pour moi.
Ouais, voilà. Après, c'est peut-être une question d'équilibrage aussi.
Ouais.
Oui. Mais enfin, je crois que c'est un des circuits quand ils ont fait la vidéo du DLC. Je me suis dit, mais c'est un nouveau lui.
Ah, mais il est. Enfin, effectivement, quand tu revois le circuit Game Boy Advance, c'est-à-dire que moi j'ai ressorti la cartouche Game Boy Advance et j'étais à revoir en me disant c'est pas possible, il existe pas ce circuit, il se fout de notre gueule. Et non, il existe. Et c'est vrai que. Bah, ok, c'était la thématique du circuit d'origine, qui était effectivement un truc avec des jouets et tout ça, mais ça n'a plus rien à voir, quoi.
En même temps, ouais, ils n'allaient pas reprendre le circuit GBA tel quel, quoi, pour le coup.
Ouais, mais même, enfin voilà,
c'est assez impressionnant.
Le circuit GBA à l'origine, forcément, il était plat, mais même le décor en arrière-plan, il n'était pas aussi détaillé que ça.
Ouais, c'est limite, normal. Forcément, c'est sur GBA, mais je veux dire, c'est vrai qu'ils ont, fait. Là, ils ont juste repris le tracé, ils ont créé l'univers et le concept avec le ruban qui store et tout, c'est juste.
C'est juste énorme. Enfin,
ils se sont pas foutus de notre gueule encore sur le DLC.
Bah, pour les deux circuits GBA, ce qu'ils ont très bien réussi à faire, je trouve, c'est l'adapter aux nouveautés de Mario Kart 8, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les circuits rétro.
C'est vrai, je suis complètement d'accord. Il y a quelques circuits rétro sur lesquels l'antigravité, tout ça, c'est un peu intégré à l'arrache parce qu'il fallait en faire.
C'était la histoire de dire.
Voilà, alors que là, c'est vrai que les circuits, que ce soit le Pays Fromage ou la Route Ruban d'ailleurs, c'est plutôt bien intégré. J'en profite dans la foulée, Métro Turbo.
Le cauchemar de tous les Parisiens.
Moi, il m'a beaucoup rappelé le supermarché Donkey, je crois.
C'est pas des.
Ah oui. Où tu passes sur les toits des étals.
Non, pas celui-là. Le supermarché de la version Wii. Alors, je sais pas si.
C'est Daisy, je crois, non ?
Ah oui, d'accord, ouais. De la version Wii. Ouais, d'accord, ok, je vois.
Qui était dans la version 3DS aussi.
Qui est dans la version 3DS. Et qui est un très bon circuit. Ça m'a un peu rappelé ça comme circuit. C'était, ok, ça se passe dans un tunnel, mais ça ressemble un peu à ça. Il y a plein de chemins qui font pas forcément gagner du temps, mais il y a beaucoup de verticalité, en fait, dans ces circuits-là. Il y a des circuits en haut, en bas. Il y a des obstacles un peu partout.
Faut choisir grosso merdo entre prendre les virages le plus serré possible et risquer de se bouffer un métro
ou bien rider
par en haut et éviter. Et, gagner du temps mais éviter de se bouffer et être sûr de pas se bouffer le train quoi.
Et rider le métro surtout, ça c'est la classe.
C'est vrai que tu peux aller sur le métro.
Tu peux rider le métro mais c'est chaud patate hein.
Il faut avoir le bon timing et il faut avoir choisi le bon côté parce que des fois c'est à gauche, des fois c'est à droite.
Et changer ça régulièrement.
Puis t'as quand même une chance sur deux de le prendre dans le cul une fois que t'es arrivé au bout.
Oui, clairement, ouais. Non, mais ça va, ça va. Mais c'est un circuit que je trouve assez cool dans le concept de l'univers. En plus, quand on écoute bien au démarrage, juste avant que le moteur démarre et tout ça, on entend un petit peu des...
Oui, t'entends l'annonce.
De métro, oui, t'as l'annonceur façon japonaise.
Je trouve que le bruit de fond de gens qui parlent est juste, il est bluffant. Je crois qu'ils sont carrément allés l'enregistrer.
Ouais, en plus, si tu regardes les panneaux, ils te disent ah mais le quai pour Yoshi Valley c'est par là, le quai pour je sais plus quel endroit c'est par ici.
Voilà, et c'est pareil, ouais. t'as un endroit où il y a un plan du métro, et en fait le plan du métro est superposé à la ville, et en fait la ville, c'est la ville que tu survoles dans le circuit Rainbow Road de la version N64, je crois. Donc c'est ouais, une espèce c'est de ça, c'est ouais. La ville machin. Et cette ville là, c'est pareil, c'est celle dans laquelle tu cours quand t'es dans je sais plus quel circuit. Donc il y a une espèce de logique là-dedans. C'est-à-dire qu'on a fait au-dessus de la ville, on a fait dans la ville, on fait sous la ville.
Ouais, ouais. En fait, un univers dans le jeu, quoi.
Voilà, c'est ça. C'est la,
et, en fait, au même
la ville Toad ou je sais pas trop quoi, mais c'est vraiment bien foutu, je trouve.
Ben, c'est un truc qu'ils font très bien dans cet épisode, je trouve, et qui manquait un peu, c'est toute l'attention aux détails au niveau de l'univers. Ben, j'ai pas le souvenir que dans les Mario Kart, dans Mario Kart 64, il y a un truc que j'adorais, moi, c'était les faux sponsors sur les côtés du circuit. J'étais très content de les revoir dans le 8, parce que j'avais pas le souvenir de les avoir vus depuis. Et c'est ce genre de détails que je trouve absolument génial dans le jeu, en fait.
Il y en avait. De finition de détails en général, ce Mario Kart, il est. Alors, 60 FPS avec je sais pas les mecs, je crois, j'ai l'impression qu'ils ont passé plus de temps à faire des détails qu'à faire autre chose des fois, tellement c'est pas tant quoi.
Tu sens vraiment, enfin moi c'est l'impression que j'ai, en tout cas j'ai vraiment l'impression il y a un travail d'orfèvre, mais j'ai l'impression que les mecs s'amusent à faire ça. C'est-à-dire que s'ils s'amusaient pas à faire ça, ils mettraient pas autant de détails. C'est ultra référencé, il y a vraiment des petites touches de rien du tout un peu partout, et c'est vraiment quand tu t'amuses à faire ce genre de choses là que t'arrives à faire des choses pareilles. Alors, en tout cas, Mario Kart Double Dash, de ce point de vue-là, est assez impressionnant parce que t'as la plage Delfino, je sais pas quoi, il y a le bateau au loin qui est le bateau de Daisy sur lequel tu cours, ouais, aussi, il y a un autre bateau.
C'est juste.
Voilà, il est assez impressionnant, lui, en termes d'univers aussi, parce qu'il y a effectivement une certaine cohérence entre plusieurs circuits qui se recoupent, dans lequel, au loin, tu vas voir l'île machin sur laquelle tu cours sur le circuit suivant, et ainsi de suite. Donc il n'y a pas que Mario Kart 64 sur lequel il y a une certaine cohérence,
on va dire. Pareil pour Splatoon.
Ce serait classe, mais pour Splatoon, ça va être tellement le meilleur jeu de l'univers du monde entier.
Ouais, on s'en bat les couilles.
On s'en bat les couilles. On est vraiment trop hypé sur ce jeu, quoi. Enfin, qu'on arrête. Le meilleur circuit de ce DLC, je sais pas, j'aime beaucoup le passage feuillage quand même. Erreur route ruban, ouais, bah, je sais pas, mais c'est un excellent circuit. Alors, ce que j'adore, c'est que c'est pas un circuit, c'est une descente, et c'est vrai que je suis très 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 fan des descentes.
Alors pour le coup, vu le circuit, je sais pas
c'est
si
monté,
on descend
en fait.
Ou on monte.
C'est plutôt une montée, je dirais. Mais c'est vrai que j'adore les circuits qui sont effectivement qui sont juste trois sections à la suite. C'est-à-dire c'est vraiment une course, c'est pas un trois tours, c'est vraiment
C'est la descente. Ouais, ça,
c'est fun. Vraiment super fun à jouer.
D'ailleurs, ça doit être l'autre circuit qui est dans la descente avec la neige là. Je crois que ça doit être à peu près le seul circuit de neige que j'aime dans un jeu vidéo, tu vois.
Ah putain.
Donc, c'est que c'est bien foutu.
Ouais, c'est que c'est bien foutu, les potes. Dire,
à part dans 1080, les circuits de neige, ils sont à chier, quoi.
Ouais. Je suis assez
globalement.
Et donc, c'est Big Blue.
On a entendu le saxophone fou tout à l'heure.
Alors, Big Blue, là, c'est pareil. L'attention. Il est parti, on l'a rattrapé. Le niveau de détail est assez impressionnant, que ce soit l'annonceur au départ, que ce soit le You Got Boss Power quand on arrive à peu près au milieu de la section 2.
Ah, ils l'ont mis celui-là ?
Oui.
Oui.
Tu entends You Got Boss Power quand t'es dans le.
J'ai bien entendu. Alright, final lap. Quand t'arrives à la section
2. Alright, final lap.
Elle te booste avec la musique qui part en trombe. Oh,
purée, c'est. Mais il est bon ce circuit.
Sauf que c'est la section la plus lente, la dernière.
Enfin, oui, c'est assez étonnant d'ailleurs.
Ouais, c'est
mais
vrai.
Je le trouve très très bon en termes de fanservice, les mecs, ils ont vraiment. Ça va, ils ont poussé.
Je préférais Mutiny quand même.
Mutiny est mieux, il est plus
rapide. Moche.
Genre de loin, mais celui-ci en fait, je trouve sympa, mais j'ai du mal à dégager son. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui manque au niveau de son identité. Et le truc qu'il y a, c'est que, je sais pas, j'ai dû le faire, je sais pas, genre 5-6 fois. Et le tracé, j'arrive pas à le mémoriser, quoi. Je sais pas si je suis handicapé ou quoi.
Alors oui, par contre, moi je suis assez d'accord, j'ai beaucoup beaucoup de mal à retenir le tracé, mais je pense que c'est parce que c'est pas un circuit, c'est une course. C'est aussi con que ça. Le truc de la neige, j'ai mis énormément de temps aussi avant d'arriver à bien maîtriser le tracé.
Ouais, je sais pas, lui, il avait plus de repères, je trouve, la neige.
Celui de la neige est bien découpé au niveau des sections, parce que t'as d'abord, t'as la descente où tu commences au sommet. Après, tu rentres dans l'espèce de station d'épuration, de barrage, je sais plus trop comment, ce que c'est.
Ouais, et après, tu finis avec la piste. Ouais.
La même section en slalom, qui est vraiment une très très bonne, d'ailleurs, pour finir la course.
Même celui de la route arc-en-ciel N64, qu'ils ont fait finalement
Une descente aussi.
Il est finalement une descente aussi, tu vois. Je trouve qu'il est, même quand tu connais pas le circuit, à mon avis, il doit pas être trop compliqué à mémoriser.
En 64, il est assez large niveau virage en plus, donc. Enfin, oui. Pas un circuit qui est très compliqué. Hein,
alors, ça dépend comment tu joues, en fait. Parce que le problème, c'est que quand on joue en 200cc, parce que oui, c'est ça qu'on vous avait caché depuis tout à l'heure. Alors, sans le DLC, je précise quand même, hein, c'est-à-dire que c'est la mise à jour 4.0 de Mario Kart 8. Ça
on est à 4.1
pas...
maintenant.
Bon, tu te tais. Voilà, c'est bon, maintenant tu sors, ça va aller. D'accord, dit-il. Ok, il s'est barré. Donc c'est inclus dans la mise à jour 4.0 et donc dans la 4.1. C'est le mode 200cc qui est, je cite, enfin,
vroom,
qui va beaucoup trop vite, c'est-à-dire qu'il va tellement vite qu'il casse le jeu. Il y a des circuits sur lesquels tu t'envoles plus haut que le décor.
Ouais. C'est...
Non, en fait, pour ces gens-là, on va leur apprendre l'existence d'un cinquième bouton dans le jeu. Non, attends.
Le bouton
B qui sert à freiner.
C'est hallucinant. Je ne m'étais jamais servi du frein dans un Mario Kart et je déconne pas.
Pareil, moi non plus. Mais vraiment, quoi. Je veux dire, même dans Mario Kart Super Circuit, tu peux tout faire à fond, en fait. Lui, il est serré, Mario Kart Super Circuit sur GBA.
Il est tendu du cul.
Si tu veux faire le 3 étoiles et tout ça, moi, j'avais vraiment torché à l'époque. Je veux dire, si tu veux le faire sans le frein, faut être balèze. Mais tu peux. Ici, tu peux plus.
Ah non, mais là, tu peux plus. Le 200cc, c'est vraiment le, tout d'un coup, le jeu prend une toute autre dimension. On est vraiment dans un jeu qui est, je vais pas dire un jeu complètement différent, mais presque, t'es obligé de réapprendre des circuits.
Ah, faut que tu réapprennes les trajectoires, les moments où prendre les boosts, quel tremplin faut prendre aussi ou pas. Parce que je me souviens sur Mario Circuit, la première fois où je l'ai fait, j'ai pris un tremplin que normalement je prends, j'ai le temps de tourner, là j'ai fini dans le mur.
Ouais, alors, c'est ça.
De manière générale, aussi, ça nécessite vraiment beaucoup plus d'anticipation. Quoi. Vraiment.
Mais il y a même des endroits où je n'arrive pas à prendre correctement certains virages. Le tout dernier virage de la Rainbow Road de Mario Kart 8, donc du circuit spécial, je crois. Pas du circuit rétro, hein, du circuit normal.
Ouais.
Le tout dernier virage, qui est un virage en épingle, tu peux anticiper autant que tu veux, tu peux prendre aussi large que tu veux. Moi, je commence au début du virage, j'ai vraiment le nez dans le vide, et je finis, j'ai le cul dans le vide. Ouais. Alors, pourtant, il y a une rampe, il y a tout ce qu'il faut.
Ouais. Mais le secret, c'est le frein, mais il faut quand même pas arrêter de déraper, tu vois.
Du coup, c'est le frein, l'accélération, le dérapage en même temps. C'est
genre coupe à police. Si coupe à police, t'essayes pas de passer en dérapage si tu te sers pas du frein, tu vois. Alors,
putain, la vache, c'est encore plus.
T'accélères, tu driftes, et pendant ton drift, tu freines tout en maintenant l'accélérateur, sinon ça lâche le drift. Et là, tu vas pouvoir prendre ton virage tout en drift encore.
Ouais, tu reprends un tout petit peu d'accroche. Pour, ouais,
comme tu freines, tu fermes un peu l'angle, quoi.
Ouais, d'accord, parce que sinon, effectivement, c'est très très compliqué.
Parce que après, c'est facile de finir dans le décor. Hein.
Ouais. Et j'ai souvent dit que Mario Kart était un des jeux de course les plus techniques, parce que finalement, un Grand Turismo, machin, tout ça, c'est hyper prévisible comme truc une fois que tu capes. Je veux dire, Mario Kart a beaucoup plus de facteurs aléatoires, mais là, ils viennent de nous ajouter vraiment la touche de finesse ou le plaisir de pilotage, je trouve, il devient décuplé juste parce que tu dois, de un, anticiper à mort, et de deux, commencer à jouer du frein pendant ton dérapage.
Ouais, mais là, c'est vraiment.
Et ça, c'est kiffant.
Effectivement, je suis d'accord. Ce que je trouve extraordinaire, et c'est vraiment un truc.
C'est technique.
Non, mais tu te rends compte, un an après la sortie du jeu, plus d'un an après la sortie du jeu.
Ouais.
On a
un an pile.
Un an pile. Quelques jours près, ça doit être pas loin de ça.
Ah ouais.
On a quand même deux DLC qui ont été deux excellents DLC. Je veux dire, je suis vraiment pas pour les contenus dématérialisés de ce genre-là a posteriori, mais là, ça a vraiment à chaque fois relancé l'intérêt du jeu. Et les mecs te filent gratos, complètement hors DLC, un truc qui rajoute qui relance complètement l'intérêt du jeu. C'est-à-dire, le jeu, il est sorti depuis un an, tu le mets pas dans le carton, quoi. Il est dans ta Wii U. Et tu bourrines comme un connard dessus parce que t'as envie d'essayer de le finir, le mode 200cc, et que c'est hardcore sa grand-mère, quoi. des ronds de chapeau.
Sans même parler du finir le mode solo, juste pour le mode en ligne, le mode 100cc, ça permet vraiment de...
J'ai même pas encore essayé, mais j'ai hâte. J'essaie de finir toutes les coupes en 200 cc, mais c'est quand même très très.
Il y a un petit truc dommage qu'ils ont pas fait, c'est que le time trial du coup, lui, est resté bloqué à 150.
Il y a pas de time trial pour 200. Parallèle, ça aurait été génial.
Ouais. Je pense qu'il y a des gens qui seraient vraiment intéressés de faire le time trial en 200 pour le coup.
Alors, je pense que le time trial, le time trial en 150, je pense qu'aujourd'hui les stratégies qui mènent au record du monde et tout ça sont à peu près connues. Mais c'est vrai qu'en 200cc ça changerait quand même sacrément la donne. Il y aurait vraiment, à mon avis, un paquet de temps avant qu'on arrive à descendre les temps.
Je pense qu'il y a des fantômes qui seraient assez impressionnants à regarder et qui iraient très 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 vite.
Parce que faut voir qu'il y a aussi un autre truc, c'est que Nintendo a tué complètement le fire hopping. Alors pour rappel, le fire hopping c'est le seul moyen de tricher entre guillemets, pas tout à fait ça, mais dans la version DS on avait le snaking qui consistait à essayer d'être en permanence en dérapage pour arriver à enchaîner les turbos, donc était on va dire la méthode qui permettait un peu de casser le jeu entre guillemets. Et dans Mario Kart, oui, il y avait les motos sur lesquelles c'est pareil, on pouvait vraiment casser le jeu. Et là, sur la version 3DS, je crois qu'il n'y avait pas grand chose qui permettait de.
Non, il n'y avait rien de vraiment connu de mémoire. Il y avait juste un circuit où il y avait un gros bug qui te faisait.
Oui, qui faisait sauter une section. Tu tombais à un endroit et il te remettait.
C'était une des deux spéciales, je crois que c'était la deuxième.
Mais ça a été patché, me semble-t-il.
Ça a été patché depuis.
Voilà. Par contre, sur la version Wii U, ce qu'ils avaient trouvé, c'est le fire hopping. C'est-à-dire que quand tu dérapes ou que tu prends un champignon, que tu fais un turbo, si tu sautes sur place en alternant gauche-droite une fois que tu es, on va dire, sur la phase descendante du turbo, tu ne perds pas de vitesse. Alors, ça avait l'air de rien comme ça, mais le fait de sauter gauche-droite, machin, tu ralentissais pas, et donc tu maintenais...
C'est la même technique que dans Quake Pro Arena, en fait, dans Team Fortress classique.
Tout à fait. Voilà. C'est exactement ça. En plus, c'est exactement ça.
Sauf que donc, tu prends un peu moins de vitesse, mais c'est comme ça.
Tu prends un peu moins de vitesse, mais globalement, voilà, tu perdais moins de vitesse. Et les résultats étaient assez sensibles, c'est-à-dire qu'on arrivait à gagner quelques dixièmes de seconde, voire un petit peu plus dans certains cas.
Ouais, c'est pour avoir regardé les vidéos. Alors, c'était le meilleur fantôme sur Mid City. Fait des fire hopping, bon, assez souvent. Donc, Mid City, il y a pas mal de pouces, donc il peut en faire vraiment beaucoup. Je crois que par rapport à ce que j'ai fait, un montant qui est pas trop mauvais, parce que j'ai battu le fantôme développeur. Il mettait 20-30 secondes facile, quoi.
Ouais,
il est assez violent. Et ce qui est génial avec le 200cc, c'est qu'ils ont tué le fire hopping. Parce que ça ne sert plus à rien.
Je lui dis ça, mais ils vont trouver le moyen de le. Ils vont trouver un autre truc.
Pour l'instant, il sert à rien. On va aussi vite, on perd quasiment pas d'accélération. D'ailleurs, c'est assez chiant parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais les carapaces vont quasiment aussi vite que vous.
Oui. On a remarqué, oui. Si tu lances. Une carapace et qu'elle est pas en pleine vitesse, tu peux passer devant. ce qui est quand même pas mal. Mais d'une manière générale, c'est juste, c'est presque plus le même jeu, quoi.
Ça renouvelle vraiment le jeu. Et alors, du coup, on en parlait tout à l'heure, donc je vais vous dire comment utiliser, faire en ligne
astuce,
avec les pros.
Astuce.
Attention, les tutos de Tonton Hanzo. Donc, vous allez dans Jeux en ligne, dans le menu Mario Kart.
Et on entend, il le fait en direct. Vous pouvez rejoindre Antix si vous avez envie qu'Antix enlève le bas. Vous pouvez envoyer Antix enlève le bas sur Twitter et il enlèvera tout.
J'accepte les carapaces en direct.
On lui pète les chevilles maintenant.
Maintenant que vous avez réussi à vous connecter en ligne, vous pouvez aller dans Mondial ou Régional. Et là, au lieu de choisir directement Course ou Bataille de Ballon si vous n'avez pas de goût, vous allez dans Personnaliser. Et là, on vous demande de choisir un mode. Par exemple, vous avez du Grand Prix 200cc, de la bataille de ballon, du Grand Prix miroir.
Simplement.
Et vous pouvez configurer, et puis vous appuyez sur OK, ça commencera à chercher. Donc je pense que si vous mettez tous les objets, tous les véhicules et toutes les commandes... D'ailleurs, c'est quoi commande? Ah, OK, c'est gyroscope. On s'en sort le dernier. Vous aurez facilement du monde en 200cc. Alors là, vous pouvez essayer de faire ça, sinon, effectivement, il reste les tournois.
Ah, mais ça, c'est juste génial, ça.
Voilà.
Ça y est, bon, maintenant ils vont jouer à Mario Kart 8 et je vais devoir finir l'émission tout seul.
Voilà, vite de là-bas, on joue.
Voilà, au revoir. On passe en...
D'ailleurs, je tiens à préciser, on pensait faire une spéciale Splatoon pour la sortie du jeu, mais en fait on va jouer au jeu.
Ouais.
On fera pas de Dojoba.
Désolé.
On fera un Twitch en direct.
J'ai presque ce qu'il faut maintenant.
Manquera la connexion pour avoir un
jeu. Je t'emmerde. D'accord.
Je t'en prie.
Je te dis crotte de bique dans tes fesses.
Saviez-vous que le mode de 100 cm cube apporte un problème de gameplay très problématique au multijoueur local?
Ah non, je ne savais pas. Alors c'est une information qui peut intéresser les gens.
Tu vois, quand tu joues en multilocal, forcément, il n'y a pas tout le monde qui a un gamepad. Il n'y a pas tout le monde qui a un contrôleur pro nécessairement. Il y a des gens qui ont encore Wiimote Nunchuk ou Wiimote tout court. Alors, Wiimote tout court, on va essayer d'éviter parce que du coup, tu perds la direction analogique. Mais Wiimote Nunchuk, tu conserves la direction analogique. Le problème, c'est que sur quand tu joues en mode Wiimote plus Nunchuk, donc tu as l'accélérateur sur le A, hop, le bouton principal de la Wiimote, quoi. Le dérapage est sur le B, mais le B, c'est aussi le frein quand tu n'accélères pas. Ce qui veut dire qu'en 200cc, quand tu veux prendre le virage de ouf avec l'accélérateur plus le drift plus le frein, tu peux pas parce que c'est soit de drift soit de frein.
Alors moi je propose un défi à nos auditeurs parce que je pense que ça vaut le coup. Donc finir l'intégralité des coupes de Mario Kart 8 en 200cc avec seulement la Wiimote.
Seulement.
Voilà.
Seulement la Wiimote.
Et seulement en gyroscope. Allez-y les gars, partez devant, on vous attend.
C'est ça quoi. Mais du coup ça pose un vrai problème parce que ça veut dire que quand tu vas jouer en multilocal avec quelqu'un qui va prendre Wiimote Nunchuk, ben, soit il doit perdre.
Soit il joue en 150.
Ou alors il débranche le Nunchuk et joue avec la Wiimote à l'horizontale, mais il perd tout l'analogique et il se retrouve en mode NES. Du coup c'est quand même...
Ouais, c'est un peu dommage.
Parce que ce qu'on avait aussi, on avait ce problème-là aussi en fait en mode Wiimote à l'horizontale, mais Nintendo a corrigé le truc. Maintenant, la combinaison de boutons pour déraper est un peu différente en fait, ce qui te permet encore de freiner tout en ayant le frein, je crois. Avant, c'était genre donc c'était sur le B qu'ils se trouvaient sous l'index gauche une fois que t'as la Wiimote à l'horizontale, tu vois, et t'accélérais avec le A et tu dérapais, enfin et tu freinais avec le, pardon, t'accélérais avec le 2 et tu freinais avec le 1. Voilà. Et maintenant, en fait, pour déraper, tu dois faire 1 et 2 en même temps, je crois. Obligatoirement. Et alors, ils ont mis le frein sur le B. Ce qui fait que tu peux, enfin, tu vois, ils ont un petit peu changé le système pour que tu puisses réajuster, mais ils l'ont pas fait en mode Wiimote Nunchuk, du coup.
Je sais pas si quelqu'un de Nintendo nous écoute.
Mais ils ont forcément dû penser au problème à un moment, puisqu'ils ont un petit peu corrigé ça avec le patch.
Ouais, mais du coup, ce sera peut-être un autre patch qui corrigera le truc. C'est dommage, on a le bouton Z et le bouton C côté Nunchu qui pourrait très bien servir soit à déraper, soit à freiner. Quoi.
Le Z, ça doit être les objets, et C, c'est le rétro, je crois.
Bah, le rétro, on s'en fout.
Oui.
On l'utilise une fois sur.
Non, mais au pire, ça pourrait être mis sur la croix, par exemple. Bah, voilà. Le bouton de plus ou une connerie comme
le
ça. Enfin,
dojo a la solution.
Le dojo a toujours la solution.
Le mode 200cc est juste hyper parfait. Ils ont super bien orchestré les musiques et tout ce qu'on veut. Mais il y a ce petit détail à la con. Plus le fait qu'ils n'ont pas mis de nouveaux circuits en mode arène alors qu'ils avaient le Baby Park qui aurait pu servir.
Ah, le Baby Park, je suis super déçu. Mais je pensais vraiment qu'il était dispo en mode arène.
T'as envie de mettre un vrai mode battle quand même.
Ouais, ça aurait été mieux.
Bah, s'il y a un DLC3 qui met un vrai mode battle ou on met du vrai mode battle, c'est vrai que ce serait. Enfin, sincèrement, je pense qu'il y aurait des gens qui seraient clients parce que.
Oh, complètement. Hein. Moi, je reste un client du Block 4 version Nintendo 64. Mmh. Et du Donut machin truc là.
On est tout à fait d'accord.
Du coup, même s'ils avaient mis le Baby Park en mode ballon machin truc, somme toute, c'est pas très palpitant comme tracé. Hein.
Bah, c'est déjà un petit peu plus palpitant que de faire circuit Mario qui. Tu passes une heure et demie à te chercher et puis tu te trouves pas et puis c'est chiant. Puis
au bout d'un moment, t'arrêtes.
C'est moins long.
Là, t'éteins la console, tu remets le disque dans la boîte, puis tu vas aller te pendre. Enfin bon, voilà quoi, c'est vrai.
Pendant la sortie de Splatoon.
Voilà, tout à fait. On va faire une deuxième pause musicale, parce que je pense qu'on a fait un bon tour là quand même. Et donc nous allons écouter l'OST de Yooka-Laylee. Je m'étais jamais posé la question de comment est-ce qu'on allait prononcer ça. Yooka-Laylee.
Je sais pas, ça devait s'appeler le projet Yooka-Laylee.
Ah bah là c'est Yooka-Laylee.
Ah oui, c'est vrai, c'est juste.
Yooka-Laylee.
J'avais pas fait le rapprochement. Énorme.
Ah oui, non, mais voilà. ils ont repris le concept de Banjo-Kazooie jusqu'à donner des noms d'instruments aux personnages. Hein.
Ouais, voilà, donc c'est un peu la grosse repompe. On en parlera tout à l'heure parce qu'on va parler de Kickstarter et de tout ça. Et voilà, Méduse va devoir nous quitter parce que. Voilà, il doit besogner plein de choses.
Voilà.
Donc il va retourner à ses bases besogne.
Bon Kickstarter, les amis.
Et donc nous discuterons de cette grosse arnaque Kickstarter dans un petit peu plus de 3 minutes.
Alors à partir de 3 euros pour le dojo bar, on aura un Méduse gratuit pour tout le monde.
Un amiibo Méduse. À tout de suite.
Je suis client.
Et nous voilà de retour.
Bourre.
Putain, un petit peu à la bourre.
Bourre.
Merci Antix.
Tix.
Cet homme est énorme. Donc nous sommes en amoureux. Nous sommes tous les deux dans le bar puisque Méduse a déserté comme un pleutre.
Plus de tentacules, enfin.
Voilà, il a laissé traîner ses tentacules, il a bavé partout. Enfin voilà, il en a foutu partout comme d'habitude.
Il a fallu qu'on nettoie, c'est pour ça qu'on a la bourre.
Tout à fait. Et on va parler un petit peu de Kickstarter, puisque alors vous n'êtes pas sans savoir que le projet Yooka-Laylee. Alors je pense que c'est Yooka-Laylee. Je vois vraiment pas comment ça se prononce. Bref, le projet Yooka-Laylee qui était lancé par alors notamment des anciens de Rare.
C'est la team, enfin l'équipe créative de Banjo-Kazooie.
D'accord, carrément. Moi, je pensais qu'il y avait quelques anciens de Rare, mais je savais pas que c'était...
C'est eux les porteurs du projet, si j'ai bien compris. Il y a David Wise et surtout Grant Kirkboff.
Kirkboff,
donc qui est le compositeur de musique de Banjo, pour le coup. Qui participe au projet. Enfin, j'ai pas les noms en tête, mais ouais, c'est globalement l'équipe créative de Rare qui s'est barrée, c'est celle qui avait créé Banjo-Kazooie globalement.
D'accord, et donc qui remet le couvert. Le problème que ça nous pose, c'est que bah, c'est bien gentil. Alors je suis très content que ce jeu soit financé et tout ça. Maintenant, c'est quand même un vrai studio pro. Et je commence à me poser la question, je suis pas le seul à me demander, comment ça se fait que des professionnels fassent appel à du financement participatif alors que normalement ils devraient faire appel à des investisseurs. Est-ce que c'est normal qu'on mette à contribution les gens? Enfin voilà, il y a eu quelques exemples par le passé, apparemment d'éditeurs peu scrupuleux, ça commence par Electronics, ça finit par Arts.
Square Enix aussi
qui aurait dit à des studios et à des développeurs, bah écoutez, faites une campagne Kickstarter, si vous arrivez à avoir vos objectifs, nous on vous l'éditera. Donc, enfin je sais pas, le boulot de l'éditeur pour moi c'est un investisseur, son boulot c'est de mettre des sous sur un projet et voilà, que d'essayer que ça se plante pas et de faire tout ce qu'il faut pour que ça se plante pas. Si les joueurs remplacent, font le boulot de l'investisseur, bah je sais pas, je trouve ça quand même un peu limite quoi.
Ce qu'il faut voir c'est que globalement c'est pas un souci qu'en fait on est en tant que joueur, il y en a qui puissent vouloir investir dans un jeu. Le souci, c'est que un investisseur comme un éditeur, lui a un droit de regard, un certain contrôle sur l'offre qui va sortir. Je pense que c'est un très bon exemple de ça. Il suffit de lire un peu les Iwata Ask, les Iwata Demande en bon français, pour tout ce qui est studio seconde partie de Nintendo, c'est qu'ils font venir les producteurs de chez Nintendo à la table. C'est pas juste des producteurs qui sont là pour regarder si le jeu avance bien et faire des rapports.
Ils sont là pour protéger l'investissement de Nintendo aussi.
C'est ça.
Hein,
et
c'est un peu logique.
Quand tu les écoutes, quand tu lis ce qu'il y a écrit, donc pour le coup, on est obligé de se fier à ce qu'il y a écrit dans l'Iwata Demande, mais ils ont quand même des remarques, une certaine influence sur le jeu. Ce qui n'est pas le cas des joueurs qui peuvent payer sur Kickstarter. Puisque malheureusement, en tant qu'investisseur Kickstarter, alors à moins que payer une certaine somme qui permet d'accéder à parfois à certaines réunions créatives, ce genre de choses, les backers n'ont pas de droit de regard sur l'œuvre.
Oui, voilà, parce que je rappelle que c'est moi ce qui me pose le plus de problèmes là-dedans, c'est ce que je trouve le plus hallucinant, c'est que finalement, quand on est backer, donc on est un donateur. Donc on est une espèce de bienfaiteur, en fait, d'un point de vue légal, ça ressemble à du mécénat. Hein.
C'est ce qui se rapprocherait plus que de l'investissement, pour le coup. C'est presque du mécénat,
C'est du mécénat, parce que globalement, on n'est pas actionnaire du projet, donc on n'a pas un droit de vote ou un droit de regard direct. Et puis pareil, on ne reçoit pas le fruit du truc, c'est-à-dire que t'as donné 5 euros, machin, bah tu les as donnés, tu les récupéreras jamais.
Alors, ça c'est faux, t'as toujours des contreparties, mais quand tu donnes 5 euros, c'est pas une grosse contrepartie. Je crois que de toute façon, la manière générale, pour avoir le jeu, maintenant c'est 15-20 euros généralement qui demandent. T'as une contrepartie, mais le truc c'est que entre le moment où t'as payé et le moment où t'as ta contrepartie, donc c'est-à-dire quand le jeu sort, tu peux rien dire en fait.
Oui, voilà, tu peux rien dire, mais même la contrepartie. Alors, effectivement, il y a des gens qui ont payé une certaine somme et qui ont des contreparties importantes, mais c'est pas parce que t'as payé 30 euros que tu vas forcément avoir le jeu, tu vas avoir le truc dédicacé machin. Alors, ok, c'est des objets collector, c'est des objets sympas, mais ça reste quand même assez peu. Tu n'as aucun pouvoir de décision.
Bah, pour le coup, pour la contrepartie, tu t'indiques ce qu'ils vont te donner. Donc, si tu veux le jeu, tu sais que tu vas devoir mettre telle somme minimum. Ça, pour le coup, après, bon, c'est les créateurs qui doivent aussi tenir à ce qu'ils soient à quoi ils sont engagés, mais tu sais qu'à partir de telle somme, tu auras le jeu. Après, la question, c'est est-ce que tu veux plus pour avoir plus ? Ça, c'est autre chose.
Voilà, mais je maintiens que c'est quand même un gros problème parce que on est donateur, on n'est pas actionnaire. Pour moi, il y a deux problèmes. Effectivement, le fait de ne pas être actionnaire, je pense que le cas de l'Oculus Rift était quand même un des cas les plus marquants. Dire que Oculus VR, le projet, s'est financé sur Kickstarter, ça a été un des peut-être pas un des premiers gros Kickstarter, mais enfin, ça a été quand même un des très gros d'un projet qui a réussi à se financer comme ça. Le truc est racheté par Facebook. Et là, t'as tous les backers qui disent « Attendez les gars, vous foutez de notre gueule, nous on a payé pour avoir un Oculus VR, on n'a pas payé pour que vous fassiez racheter 4 milliards par Facebook, c'est pas normal qu'on récupère pas un peu de sous là-dedans, après tout c'est nous qui vous avons aidé à démarrer. Est-ce que c'est normal que vous revendiez finalement les efforts ou les espoirs qu'ont les gens mis en vous à d'autres personnes ?» Et effectivement, je trouve que c'est extrêmement problématique ce modèle-là, c'est pas de l'actionnariat, hein. C'est vraiment du don.
Il y a un souci, enfin je pense qu'il y a un peu de flou, surtout pour l'Oculus Rift, parce que au final, les gens ont financé un produit et Facebook a racheté une entreprise. Je pense que c'est sûrement comme ça qu'ils vont se défendre, parce que Facebook n'a pas racheté le produit, il a racheté l'entreprise, donc avec toute l'équipe qui va avec. Mais ouais, c'est là où on voit qu'il y a... et d'ailleurs, c'est pas que le cas de Oculus Rift, hein, parce que je te parlais justement off de Mighty No. 9, qui était financé une première fois. Je crois qu'il y a eu une seconde demande de campagne, ça j'ai vérifié, et dernièrement, il me semble qu'ils ont fini... qui sont finis par travailler avec un éditeur pour éditer le jeu qui va sortir en boîte. Alors que le jeu était prévu pour sortir uniquement en téléchargement, il aurait dû sortir il y a un moment, quoi.
Donc il y a quand même une... Enfin, je sais pas, je trouve qu'il y a un côté arnaque là-dedans qui est...
C'est dur de parler... Enfin, je sais pas si on peut parler d'arnaque ou pas, puisque si au final, ce que pourquoi t'as payé sort et que tu... Dans les promesses qu'on t'a données, ça peut pas être considéré comme une arnaque, mais... c'est sûr qu'en tant que backer, tu es limité dans le contrôle du produit que tu as financé, quoi. Et donc c'est ça qui peut poser problème à certaines personnes.
Et je comprends bien, mais après il y a le problème. Alors, il y a eu un excellent épisode de South Park sur le sujet il y a quelques mois, où les mecs disaient, voilà, Kickstarter c'est juste génial, parce qu'en fait nous on est Kickstarter, on reste assis sur nos culs et on prend 8%, et on fait rien. Parce que finalement, effectivement, ils font pas de promo, ils font pas de machin, ils prennent un pourcentage des recettes.
Il me semble que si ils font des mises en avant des Kickstarter qui marchent bien. Parce que oui, forcément, enfin, comme ils prennent
8%,
plus c'est financé, plus ils vont gagner dans le pourcentage.
Voilà. C'est que sur les 1 million de livres qui ont été mis pour Ukulele, il y en a quand même un petit paquet, hein, 80 000.
Qui vont finir chez
Kickstarter. Pour voilà. Ne pas faire grand chose au final, à part
fournir la plateforme. En fait, eux, c'est juste
de la réputation.
C'est presque Amazon. En fait. C'est comme Amazon ou Steam, ils vont, ils fournissent les outils pour que les gens aient pas à le faire, pour que les gens aient juste à proposer leur truc. D'ailleurs, c'est vraiment un service, c'est pour ça qu'ils prennent un pourcentage. Ils fournissent juste leur plateforme, en fait.
On est d'accord. Hein. Mais enfin, je sais pas, je trouve que le système au global est quand même un peu délirant. Alors effectivement, ça marche dans certains cas. Il y a des jeux comme Shovel Knight qui ont été en financement participatif. Yacht Club Game est un vrai studio indépendant. Il n'y avait pas de gros éditeurs derrière. Ils ont vraiment, enfin le jeu, quand on voit le résultat, on se dit que finalement l'argent n'a pas été perdu. Il y avait des contreparties qui étaient assez conséquentes. Enfin voilà, il y a des gens qui financent des vrais projets avec. Hein. C'est pas du tout ce qu'on est en train de dire. On n'est pas en train de dire que tous les projets Kickstarter sont des arnaques.
Juste que le problème du financement participatif, c'est qu'on a une limite. Et quand effectivement un jeu est repris par un éditeur et que au final l'éditeur, s'il décide que sur les promesses qui ont été proposées, il y en avait, non, ce sera pas possible, ça marchera pas. En tant que backer, t'auras pas ton mot à dire derrière.
Voilà.
Alors que tu as financé le jeu sur ses promesses.
Tout à fait, que t'as financé le jeu sur ses promesses.
Après, faut pas avoir le mal partout, puisque ça a quand même permis des jeux comme Shovel Knight de sortir.
Qui ne serait peut-être pas sorti. Enfin, c'est-à-dire que si les mecs de Yacht Game Club étaient allés voir tous les éditeurs de la planète... Et d'ailleurs, c'est arrivé à beaucoup de projets, hein, d'aller voir plein d'éditeurs, de se faire jeter comme des merdes systématiquement, et de finalement se dire, tant pis, on va tenter une campagne Kickstarter, et puis si ça marche et qu'on arrive à le sortir, le pognon, il sera pour nous, quoi, derrière. Et on fait la nique à tout le monde.
Pas ça. Après, Shovel Knight avait la plateforme rétro 2D avait un peu le vent en poupe. Enfin, a eu quand même le vent en poupe, bien en poupe avec Super Meat Boy. Donc, peut-être pas eux qui auraient eu le plus de soucis à se financer, mais je pense à des jeux comme Pillars of Eternity qui est vraiment un RPG, un jeu de rôle PC vraiment très très à l'ancienne.
Super traditionnel.
Qui apparemment est excellent. Bon, après, moi, c'est pas vraiment mon genre de jeu parce que ça m'emmerderait assez vite. Un genre de jeu auquel je joue beaucoup, mais qui apparemment est très bon, financé par Kickstarter. Enfin, d'ailleurs, tout ce genre de jeu financé uniquement par Kickstarter, il n'y a aucun éditeur qui voudrait le financer parce que c'est un travail monstrueux. Je pense à Faster Than Light, qui est un jeu que j'apprécie énormément, qui vient aussi de Kickstarter. Il n'y a pas de mauvaise chose, mais après, il y a les jeux qui font polémique. Et t'as aussi un autre effet pervers de Kickstarter, c'est que les jeux qui marchent le mieux, ben, c'est les jeux derrière, ils ont des grands noms. Donc Mighty No. 9 qui est Inafune par exemple, là projet Yooka-Laylee, ben, des anciens de Rare, donc forcément, il s'agit que de Banjo-Kazooie, ils ont mis la main au porte-monnaie. T'as Peter Molyneux aussi qui a fait un truc comme ça, Tim Schafer et le... Comment il s'appelait déjà le Broken Age.
Il y a le créateur d'Eternal Darkness, non, qui avait fait
Je crois aussi d'ailleurs lui qui s'est planté d'ailleurs.
Mais qui s'est planté deux fois d'ailleurs.
Planté deux fois. Et d'ailleurs, je parlais de Tim Schafer, mais c'est un des premiers qui a montré que voilà, Kickstarter, c'était bien pour financer, mais si derrière ça galère, voilà, quoi, les mecs peuvent pas essayer de trouver d'autres solutions. Et lui, il a coupé le jeu en deux, par exemple, alors qu'à la base, le jeu devait sortir en une seule fois, quoi. Et je crois qu'il a mis quasiment un an à sortir la deuxième partie. Hein.
Oui, non, mais il a mis énormément de temps. Après, ce qui fait un petit peu peur, c'est les pratiques un peu douteuses. C'est-à-dire, c'est effectivement, alors, je sais pas si c'est le cas, je dis citer des exemples un peu au hasard, j'accuse personne, mais apparemment, il y a des gros éditeurs, genre Electronic Arts, Ubisoft, machin, qui vont effectivement dire aux petits studios qui leur proposent des choses, bah écoutez, faites une campagne Kickstarter, et puis derrière, on vous rachètera.
Il y a Square Enix qui a fait sa plateforme de financement participatif de mémoire.
Oui, enfin, ils ont essayé.
Ils ont essayé, oui, tu vois, ils se sont dit que ça valait le coup. Ouais, et puis même sans ça, de toute façon, t'as toujours les jeux avec les promesses qui sont pas tenues. Peter Molyneux s'est fait défoncer par Rock Paper Shotgun il y a quelques semaines, parce qu'un des jeux qu'il avait financé par Kickstarter, il devait sortir sur PC et iOS, ben, je crois qu'il y a une des deux versions qui sortira jamais, parce que déjà, la version qui est sortie est trop buggée, et l'autre version, il n'y a plus personne pour travailler dessus.
Ouais, non, mais voilà, c'est un peu ça. C'est merci d'avoir financé notre hélicoptère avec des pales en or. Mais maintenant, le jeu, bon, bah, pour vous.
Voilà, c'est le souci, c'est beaucoup de promesses Kickstarter, et le problème, c'est que le résultat, ben, tu l'auras pas avant généralement 1 ou 2 ans, et parfois, tu l'auras même jamais, quoi. Il y a plein, enfin, ça arrive assez souvent, il y a toujours quelques projets comme ça qui ne voient pas le jeu ou qui ont des difficultés. Pour lequel, bah, en tant que backer, tu peux pas faire grand chose, quoi. Parce que je pense que c'est le plus gros souci de Kickstarter pour moi. C'est pour ça que je finance jamais là-bas. Hein.
Voilà, t'as jamais fait de financement participatif?
Jamais, parce que pour les jeux, j'estime que si le jeu vaut le coup, bah, autant le payer quand il sortira, quoi.
On est d'accord, de toute façon.
J'ai fait pour Shovel Knight, ce que je ferai sûrement pour Yooka-Laylee, puisque. Enfin, moi je trouve que pour le coup, le mec se joue trop sur la nostalgie Banjo-Kazooie. Enfin, j'ai regardé vite fait la page Kickstarter. Les polices qu'ils utilisent, c'est les mêmes que celles de Banjo-Kazooie.
Oui, non, ils sont un peu. J'ai un petit peu abusé sur ce coup.
J'aime pas la façon dont c'est fait, mais si le jeu est bon, je serai le premier à le dire. Il n'y aura pas de problème.
Ouais, non, mais voilà, après, c'est la méthode n'est pas forcément très louable, on va dire, mais derrière le résultat est là, il n'y a pas grand chose à dire. Finalement, d'ailleurs, ça pourrait être la conclusion du truc. C'est ok, Kickstarter, c'est un petit peu le financement participatif de manière générale, c'est pas forcément une impasse, mais c'est un peu.
Ah, c'est
un peu à double tranchant, j'ai envie de dire.
C'est un peu une solution pour des jeux ou des genres mineurs, enfin des jeux de genre mineur, qui effectivement ne pourraient pas être financés par un éditeur de façon traditionnelle.
Mais ce qui est étonnant, c'est que quand t'es un éditeur, je pense, hein, quand t'es un investisseur, on va dire de manière générale, que tu sois un éditeur ou autre chose, tu vois que il y a un RPG un peu pur et dur, PC, machin, tu parlais de Pillars of Eternity, c'est ça ?
Pillars of Eternity.
Pillars of Eternity. Je connais pas, hein, j'ai pas... Voilà, tu vois que ce truc-là arrive à se financer, tu vois que les mecs arrivent à sortir leur jeu. Tu te dis pas, putain, il y a un marché pour ça, il faut lancer quelque chose ? Je sais pas, ça me paraît, moi, un petit peu logique de se dire, tiens, ça a marché en Kickstarter.
Ça reste un marché de niche, hein, en fait. Bah, Kickstarter, c'est un marché de niche, hein. Faut pas se leurrer là-dessus. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de jeux Kickstarter qui aient dépassé le million. Hein. Enfin, j'ai pas les chiffres, je connais pas les chiffres, parce que de toute façon, la majorité sort en démat. De toute façon, la majorité sort en démat, donc on n'a pas les chiffres
en plus derrière.
Oscar nous les fournit pas, malheureusement. Mais je pense pas qu'il y en ait beaucoup qui dépassent le million, et de toute façon, Kickstarter, c'est pas fait pour des gros jeux ambitieux, hein, très clairement. Ce sera vraiment pour des jeux qui sortiront à 15€ en téléchargement uniquement. C'est pas plus mal en soi d'ailleurs, hein, parce qu'au moins, t'es sûr que le projet verra le jour.
Tout à fait. Écoute, on a fait un petit tour de Kickstarter. Je tenais à ce qu'on en parle parce qu'effectivement, il y avait un petit peu d'actualité autour de ça. On espère quand même que Yooka-Laylee sera un bon jeu.
Globalement, oui. Moi, j'espère que niveau collectionnique, ils vont se calmer parce que j'ai encore des mauvais souvenirs de Donkey Kong 64.
C'est vrai que, alors je me rappelle que Donkey Kong 64 est le jeu dans lequel il y a le plus d'items à collecter.
Banjo-Tooie aussi m'avait bien refroidi.
Il est dans le Guinness des records, Donkey Kong 64.
Ouais, c'est ça, T'as quoi, t'as 50 bananes par personnage
T'as 500 bananes par personnage, plus 40 plans rouges, 20 plans bleus, plus les pièces machin truc, plus les pièces bananes, plus... Enfin, c'est
les 120 bananes.
Plus les 120 bananes, plus machin. La 121ème banane, je crois qu'il y en a une. Je sais plus.
Oui, je crois. Bref.
Enfin bon, il est assez ignoble. C'est assez indigeste. Donc j'espère qu'ils vont se calmer un petit peu, même si c'est vrai que ça peut être sympa, mais il faut que ça reste de l'objectif secondaire. Même Banjo-Kazooie, je trouve que ça faisait beaucoup.
Banjo-Kazooie, ça allait parce que tout était dans le niveau et tu pouvais tout récupérer en une seule fois, en fait.
Oui, c'est vrai.
C'est là où ça fond.
T'étais pas obligé de te retaper le niveau 50 fois.
Bah, c'était un peu le problème pour moi de Donkey Kong 64, donc avec ces 5 personnages et de Banjo-Tooie où tu
parce
devais...
Faut voir, Donkey Kong 64, c'est tu rejoues pratiquement 5 fois le même jeu, hein, parce qu'au final...
Et Banjo-Tooie aussi, pour moi, un peu le même souci, parce que t'as beaucoup de backtracking à la Metroid, tu dois revenir en arrière avec une nouvelle capacité.
Oui, c'est vrai que c'est pas...
J'avais pas trop aimé dans Banjo-Tooie.
C'est sympa quand même comme jeu, mais voilà. Bref, nous allons nous quitter, parce que cette émission a duré beaucoup trop longtemps.
Mm-hmm.
Enfin, pas tant que ça, mais voilà.
Moins longtemps que la dernière, mais...
Moins longtemps que la dernière, mais quand même. Nous allons nous quitter avec la citation du jour... comme le veut la tradition depuis quelques émissions, la citation du jour qui aujourd'hui nous vient de Chewbacca, parce que c'était le Star Wars Day hier, le 4 mai, c'était le May the Force, donc nous avons une citation de Chewbacca, alors je cite, je vais récupérer ma petite fiche, voilà, je pense que c'est clair, il n'y a vraiment rien à rajouter.
Non.
Voilà, je pense que c'est... en tout cas ça ira.
Je suis... C'était très profond, très philosophique. Hein.
Je n'en attendais pas moins de ta part. Bref.
Voilà, je crois, pour réfléchir à tout ça.
Voilà, non, mais voilà, il va falloir qu'on aille se coucher pour réfléchir à tout ça. Nous, on se dit à dans 2 semaines. Je ne peux pas vous donner le programme de dans 2 semaines parce que je sais pas. On parlera très probablement de Kirby et le pinceau arc-en-ciel, le pinceau du pouvoir arc-en-ciel de je sais pas trop quoi, parce que c'est un jeu qui a l'air vraiment top, top, top moumoute. Et je crois que Splatoon ne sera pas encore sorti dans 2 semaines, donc de toute façon, on attendra encore. Mais on parlera probablement du Splatoon direct.
29 ou le 22 Splatoon de mémoire.
Tout à fait. Donc de toute façon, on parlera très probablement du Splatoon direct et de probablement Kirby et le pinceau du pouvoir.
Ouais, il y aura peut-être Codename Steam qui sera sorti d'ici là.
Et il y aura peut-être Codename Steam qui sera effectivement sorti, donc on pourra. On aura probablement des sujets à parler dans 2 semaines, en tout cas, il n'y a pas de souci. Bref, ta gueule et mes Tetris, et à dans 2 semaines.
Bon.